Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine ici, je pars à la rencontre d'entrepreneurs, d'indépendantes, de freelance, de solopreneurs comme toi et comme moi qui nous rapportent dans nos conversations leurs conseils, leurs apprentissages, leurs leçons et leurs questions aussi parfois sur leur business et leur vie d'entrepreneur. Chaque épisode couvre une thématique spécifique, mais évidemment on y parle de plein d'autres choses pour t'inspirer et t'apporter des clés concrètes pour avancer. Donc installe-toi bien, prends de quoi noter et on se plonge ensemble dans l'épisode du jour. Merci pour ton écoute et on se retrouve à la fin. Dans cet épisode, j'accueille pour la 2e fois une personne qui a vu ce podcast, mais aussi tout, finalement tout le reste de mon entreprise, bien évoluer, bien grandir, bien se développer au fil des années. Et comme je le disais, cette personne est déjà venue parler avec moi sur ce podcast et elle s'appelle Diane Ataya, que vous connaissez très certainement, je pense, pour plein de raisons, mais notamment pour la raison que Diane a été ma bras droit pendant et depuis maintenant 3 ans dans mon aventure d'entrepreneur et je suis ravi de l'accueillir pour cette conversation. Bienvenue Diane.
Merci Thomas. Alors bienvenue. Oui, en fait, comme tu disais, je suis déjà venue sur le podcast. Mais il y a aussi, je pense, une chose que les gens ne savent pas, c'est que j'ai écouté beaucoup les podcasts, pour le travailler en fait, même pas en tant qu'auditrice.
Oui.
Je l'ai fait dans un temps, je l'avoue. mais j'ai aussi fait ça parce que c'était mon travail d'écouter, de en faire des contenus, etc. Donc très contente
c'est
de
vrai.
Revenir sur le podcast.
C'est vrai que tu le connais un peu dans tous les sens le podcast du coup. mais ravi effectivement que tu sois de nouveau de ce côté-là du micro parce que bon, on va parler de plein de choses ensemble dans cette discussion, notamment de structuration et de développement de la partie intérieure d'une entreprise plutôt que la face visible de l'extérieur. Mais juste avant ça, il y a une première question que je veux te poser pour qu'on démarre. La dernière fois que tu es venue sur ce podcast, on était au mois de novembre 2020.
c'était plus ou moins à la période où tu prenais ton statut de freelance en te disant c'est parti, go, t'avais 21 ans à l'époque. Qu'est-ce qui a changé depuis?
Beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Je pense qu'une des choses qui a le plus changé, c'est mon mindset. Et c'est notamment la posture que j'ai dans comment je me comporte dans mon entreprise, alors dans ma vie perso aussi. Mais je pense que c'est une des choses qui a le plus changé et qui m'a le plus impacté. Parce que, en fait, en plus que ce qui est particulier dans la relation de travail qu'on a eue, mais aussi juste dans mon évolution, c'est que tu as été mon premier client, mais aussi un peu pas mon premier mentor, mais ma première personne avec qui je découvrais le milieu freelance. Et si les gens ne le savent pas, bah, j'ai commencé en tant que stagiaire. Donc, en fait, c'est pas comme si, je sais pas, je rentre dans une entreprise, je suis salarié, je monte les échelles, etc. Là, la différence, c'est qu'en fait, j'ai commencé freelance. Après, j'ai commencé stagiaire. Après, j'ai commencé freelance. Et puis, j'ai évolué aussi dans mon statut de freelance à tes côtés, dans la mission qu'on avait. Et, en fait, c'est peut-être ça qui a le plus changé, en fait. C'est que maintenant, mon cerveau, c'est plus le même. Et mes envies aussi, c'est plus les mêmes. Donc, je pense que c'est une des choses qui a le plus changé. Et mes évolutions sont plus les mêmes non plus, du coup.
Ouais. Tu dirais que c'est quoi la part du fait d'être à ton compte qui joue sur ce changement d'état d'esprit dont tu parles, parce que forcément il y a juste le fait de grandir et l'âge et le fait de découvrir plus le monde, etc., qui, j'imagine, joue une part, parce que voilà, c'était ta première expérience professionnelle en sortant de l'école et ainsi de suite. Mais tu dirais que c'est quoi la part du fait d'être entrepreneur? Est-ce que ça a accéléré ces changements à ton avis? Est-ce que ça a pas eu d'impact? Je suis curieux de ça.
Tu veux dire la différence de le fait que je sois freelance versus le fait que j'ai potentiellement été salarié.
Oui, ou que tu aies continué tes études sur une autre formation, enfin, tu vois.
En fait, je pense qu'il y a une leçon que j'ai retenue de nos 3 ans d'évolution et de mes 3 ans presque de freelancing, parce que je comprends un peu aussi mon statut de stagiaire, un peu comme une freelance.
Ouais.
C'est une phrase que j'ai entendue dans un podcast, qui est une phrase de Régis Medina, qui dit « la boîte, une boîte, c'est la projection, c'est la vision de ce qu'il y a dans la tête du fondateur. » Et je trouve que cette phrase, elle veut dire beaucoup de choses. Quand on parle de mieux structuration, ça veut dire beaucoup de choses. Mais ça veut aussi dire que quand on est freelance, quand on est entrepreneur, quand on est solo, ou même pas, ben en fait, notre boîte, elle dépend beaucoup de notre santé mentale. Elle dépend beaucoup de comment on va là où on va dire. Exemple tout simple, on vit une rupture, en fait, même si c'est pas directement lié à notre milieu professionnel, en fait, on va avoir une répercussion dans notre travail. Si on vit un burn-out, si on vit une dépression, ben en fait, ça va tellement impacter notre entreprise. C'est normal, en fait, c'est le même cerveau, c'est la même personne. Donc, en fait, de comment on voit, et ça parle aussi, je pense qu'une des choses qui a beaucoup, beaucoup évolué aussi dans nos 3 ans, c'est que je me suis aussi beaucoup émancipée dans mes valeurs féministes et dans mes envies d'avoir un impact sur ces sujets-là. Et quand on parle de sujets féministes, un des sujets qui me vient avec cette phrase, c'est les biais qu'on peut avoir quand on est une personne qui est privilégiée. Et en fait, c'est tellement une phrase qui résume beaucoup de ce que j'ai pu apprendre en ces 3 ans, c'est super intéressant d'être freelance, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais poursuivre le plus longtemps possible. Mais qu'en fait, quand tu vas pas bien, tu vas pas bien. Et ton entreprise, c'est normal qu'elle aille pas bien. Parce qu'en fait, c'est ton cerveau qui réfléchit à ta prospection, à ta structuration, au fait de déléguer, au fait de pas déléguer. Et je pense que c'est une des phrases qui résume le plus ce que j'ai pu retenir de ces 3 ans, c'est sûr.
Parce que, enfin, j'essaie de comprendre pourquoi cette phrase. Est-ce que c'est parce que justement, t'as vécu beaucoup de choses intenses dans ton esprit et ta santé mentale et t'as vu les effets directement?
Ouais, en fait, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un peu plus d'un an, j'ai eu une information qui m'a vraiment bouleversée dans mon milieu personnel, et ça a beaucoup remis en question ma vie professionnelle. Et ça a un peu commencé, c'est un peu la boule de neige, c'est un peu le truc de « ah ouais, ça c'est bizarre, ah ça c'est bizarre », et ça a commencé à appuyer sur des trucs que j'avais pas encore identifiés. Et je pense que c'est le moment pour le dire, c'est aussi toutes ces étapes qui ont fait que on a décidé d'arrêter notre collaboration, parce que à un moment j'avais l'impression de d'avoir fait le tour de l'entreprise Kaleidoscope Horizon, j'avais l'impression de plus prendre autant de plaisir dans les tâches que je faisais, dans ce que je mettais en avant aussi, même sur les réseaux sociaux, etc. J'avais l'impression qu'il y a vraiment un décalage entre moi qui me mettais au travail, qui faisait des plannings, qui faisait des process, qui mettait à jour l'outil interne, le dashboard, etc. Et on va en parler. Et juste le fait que bah, j'étais plus la même personne, en fait. J'avais le pratique, voilà. Mais ma théorie et mon mindset et ma posture, c'était plus les mêmes. Et j'avais besoin de changement, j'avais besoin de voir autre chose. Et surtout, je pense que si j'avais continué, etc., en fait, ça aurait alimenté un truc qui a été alimentant financièrement ou même sur d'autres sujets, mais qui me faisait pas plaisir, en fait. J'avais vraiment un truc de, c'est ok, je sais le faire, c'est pas un problème, je peux le faire, les yeux fermés, quand je vais pas bien, quand je vais bien, etc., c'est automatique. Mais je suis pas une machine, en fait, je suis un être humain.
Ouais, mais c'est drôle parce que, bon, effectivement, les gens qui nous écoutent l'auront peut-être compris, une des raisons pour lesquelles on a décidé de faire cet épisode de podcast avec Diane, c'est aussi pour marquer la fin de ces 3 ans de collaboration. Et on rentrera potentiellement plus dans les raisons pour lesquelles on a pris cette décision. Mais tu as utilisé le mot pour parler de ton parcours de ces 3 dernières années, le mot émancipation. Et moi, personnellement, j'ai effectivement aussi l'impression que cette décision qu'on arrête, ça fait partie de ce chemin pour toi. C'est genre... voilà, comme t'as commencé à travailler avec moi dans la boîte, j'ai été ton premier client et ton client central pendant longtemps. J'ai l'impression que cette décision qu'on a prise ensemble de mettre fin à ça, qui était d'un commun accord, enfin voilà, t'en avais envie et pour moi aussi ça faisait sens. C'est quelque part le prochain pas de ton émancipation pour être en mode, ben en fait voilà, j'ai fait mon cheminement et comme une sorte de j'allais utiliser le terme coming out, mais il est utilisé dans d'autres aspects, c'est pas exactement ça, mais même, t'as changé de réseau social récemment pour te mettre à fond sur LinkedIn en mode, bon, ben voilà, en fait, voilà qui je suis, voilà ce que je fais. Et tu vois, j'ai un peu l'impression que tout ce temps, il y a eu à la fois la structuration de ce qu'on a construit ensemble pour mon entreprise et moi, mon évolution, mais il y a aussi cette évolution personnelle de toi qui t'empouvoir à te dire, ben en fait, ça y est, voilà qui je suis, c'est parti. Au revoir Thomas, merci, mais la suite est là. Je sais pas ce que t'en penses de ça.
Ouais, c'est ça en fait. Je pense que cette décision aussi et le fait de, parce que disons-le, soyons honnêtes, ce n'est pas facile de prendre ces décisions.
Non, c'est super dur.
Très dur. Je n'ai pas fait en un claquement de doigts. J'y ai réfléchi pendant longtemps. C'est un peu une petite voix dans la tête qui te le dit un jour et puis tu te dis bon, c'est pas grave, ça va passer.
Et une fois que tu l'as entendu une fois, elle se renforce.
Ouais, 2 fois, 3 fois. Et le fait aussi que je prenne cette décision aussi, c'est pas bizarre de dire ça, mais c'est pas que grâce à moi qu'on prenne la décision ensemble. Mais moi, j'ai commencé une thérapie au mois d'octobre et ça m'a aussi permis d'identifier là où j'avais plus de plaisir, le fait de changer aussi, comme tu disais, sur les réseaux sociaux, etc., c'est aussi été un peu enclenché par mes thérapies. Et en fait, je tiens aussi à dire aux personnes qui peuvent nous écouter et qui peuvent se dire, moi, j'y réfléchis d'arrêter de travailler avec ce client, avec cette cliente. C'est pas une décision qui est facile à faire, surtout quand on travaille plus longtemps avec quelqu'un. Et moi, je le dis haut et fort, vraiment, si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné par un psy, par un thérapeute, par un coach, par qui que ce soit, n'hésitez pas à le faire, en fait, parce que moi, je suis encore en thérapie et j'espère que, entre guillemets, je continuerai le plus longtemps possible parce que c'est un vrai soutien pour moi. Mais c'est pas quelque chose qui est facile. Je veux pas montrer cette idylle de dire bon voilà, on finit avec Thomas, c'est super, on fait un épisode de podcast pour vous remercier. Moi aussi, enfin, le jour où j'ai pris la décision, j'étais très contente parce que je sentais que c'était un vrai pas en avant pour mon émancipation. Mais une semaine après, 2 semaines après, j'avais quand même un petit pincement au cœur, quoi. Je me disais, c'est quand même une étape. C'est 3 ans, c'est pas rien. C'est un chemin qui est à faire, mais c'est pas rien, en fait. C'est pas un truc à négliger.
Grave.
Si vous sentez que vous avez besoin de juste prendre du temps pour analyser votre décision, pas de problème. Personne ne va vous juger, quoi.
Moi, ce que j'entends dans ce que tu partages là, c'est, enfin, ce qu'on dit depuis le début, pour moi, c'est l'illustration presque parfaite de ce que j'essaye de faire valoir dans ce podcast et dans les contenus par ailleurs, que notre aventure entrepreneuriale, elle n'est pas dissociable de notre aventure de développement en tant qu'être humain. Et qu'en fait, c'est des vases communicants, et il y a parfois des décisions business, comme arrêter avec un client, comme on l'illustre là, ou arrêter une collaboration, pour différentes raisons, ça touche aussi à l'être humain qu'on est. Donc ça, c'est première chose, notamment parce que, seconde chose, on développe des relations avec nos clients. Et clairement, la relation d'être humain à être humain qu'on a et qu'on a développé au cours de ces 3 ans et dans laquelle on a veillé à mettre du soin dans la fin de la collaboration aussi, ça fait partie de... En fait, on est en relation avec d'autres êtres humains et c'est beau d'avoir ces relations professionnelles, certes, mais amicales aussi. Enfin, voilà, elles prennent plein de formes. Et je pense que c'est d'autant plus une des raisons pour lesquelles ça n'a pas été une décision anodine et facile à prendre que parce que y a de l'émotionnel en jeu. Et quand je dis ça, j'ai l'impression que certains pourraient se dire « Ah, mais du coup, c'est pas bien, faut pas s'attacher à ses clients. » Mais en fait, si. Moi, je me dis « Putain, c'est trop bien. » Si toutes les relations avec tous les clients pouvaient être comme celles qu'on a eues et de travailler ensemble avec des gens que t'apprécies, que t'aimes, où t'as envie de prendre soin d'eux et d'elles, c'est ouf, en fait, comme type de relation. Donc, voilà, du coup, c'est les deux trucs que j'entends, tu vois.
Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et je pense que c'est une force aussi de créer des relations qui sont... hyper solide, hyper, pas dire fusionnelle, mais hyper forte, en fait. Ouais. Je pense que c'est pas pour autant qu'il faut pas fixer aussi des règles et un cadre qui est clair avec ses clients. Un truc tout simple que j'ai réussi à mettre en place ces derniers mois, c'est que maintenant je ne travaille plus le week-end, mais littéralement, dire que le vendredi soir, je fais mon ordi et je le glisse sous mon meuble de bureau et je ne le vois pas. Et en fait, c'est juste... Je pense que c'est pas pour autant, c'est pas indissociable. Dire qu'on peut avoir des relations hyper fusionnelles avec ses clients, avoir des trucs où on se confie, où on est hyper honnête, où on est hyper clair, où on a besoin de soutien aussi. Et pour autant, se fixer des règles et dire aussi, c'est aussi un sujet que t'as de plus en plus mis en place dans l'entreprise, notamment avec Marie, mais de mettre beaucoup plus de consentement dans ce qu'on fait et de clarté et de règles, parce qu'en fait, c'est aussi ça que j'ai appris petit à petit avec mes éveils féministes et mes intérêts sur ces sujets-là. Par moments, je me suis aussi un peu bouffée de l'intérieur à me dire je le fais pour mes clients, c'est pas grave, ma santé mentale, c'est pas grave. Et en fait, petit à petit, quand tu comprends aussi que ta santé mentale, comme tu dis, quand c'est ton cerveau pro, ton cerveau perso, c'est le même. Quand tu fais une crise d'angoisse, tu fais une crise d'angoisse, en fait. Qu'est-ce que pro ou perso, tu l'as fait. Et j'ai pas envie de continuer à faire des crises d'angoisse jusqu'à la fin de ma vie.
Elle discrimine pas la crise d'angoisse, c'est clair.
Voilà. Donc, je pense que c'est tout aussi nécessaire. Et c'est aussi, c'est pas facile, en fait, d'avoir des relations qui sont fusionnelles par moment. Parce que c'est pas quelque chose qui est déjà valorisé ou mis en avant par le système dans lequel on vit, etc. Mais aussi, ça peut être compliqué à vivre. Il y a aussi des personnes qui ont du mal à arrêter avec quelqu'un parce qu'ils sont tellement, fusionnels avec leurs clients ou avec les personnes avec qui ils travaillent, que ce soit même dans une boîte, un associé, etc., qu'ils se disent « Non, mais en fait, je veux pas arrêter ma relation avec cette personne, ma relation professionnelle avec personne, parce que cette relation, elle va juste se détruire. » J'ai annoncé il y a quelques semaines dans la communauté Inside que, du coup, on arrêtait notre collaboration. Et une chose que j'ai dite dedans, c'est pas parce que je ne travaille plus avec Thomas que
ça disparaît.
Je disparais ou que peut-être vous n'allez pas me revoir dans des podcasts ou même dans des interventions, etc. Donc, je pense que c'est aussi nécessaire de le rappeler, quoi.
Ouais, je pense que, tu vois, l'illustration que des personnes qui nous écoutent ont potentiellement déjà vécu de ce que tu dis, c'est quand on se lance à notre compte et là, il y a un ami ou une amie qui a besoin de notre expertise. Et ça se passe souvent parce que c'est des gens où la confiance est déjà là. C'est des gens qui ont envie de nous soutenir dans le fait de lancer notre activité. On se retrouve à travailler avec des amis. Et c'est justement dans ce genre de relation où le biais qu'on peut avoir, c'est pas fixer de cadre, ou en tout cas mettre moins de cadre qu'avec des clients qu'on connaîtrait pas. Alors que c'est presque le moment où c'est le plus important. Parce que justement, par un lien émotif plus approfondi, on va parfois dépasser nos propres limites parce que c'est un ami et on veut... Ça va être plus dur de faire respecter ce qui est important pour nous, déjà de le respecter pour nous-mêmes, ça va être plus dur d'arrêter, alors que c'est la bonne chose d'arrêter, parce que justement, on se dit les conséquences sur notre amitié, en plus de des conséquences sur le projet. Donc ça rajoute une forme d'enjeu, et je pense que c'est une vraie compétence à développer, de réussir à poser un cadre épanouissant quand on travaille avec des personnes où il y a de l'affect. Et je pense que c'est désirable, ça, plutôt que de se dire « je vais du coup jamais travailler avec des gens où il y a de l'affect », parce que c'est dommage de se priver de l'affect dans le monde pro, je pense. Mais il y a un vrai enjeu, je trouve, ouais, à cet endroit sur le cadre qu'on pose pour que tout le monde prenne soin de soi et qu'on prenne soin de l'autre.
Ben, je pense que c'est hyper important, et moi, je l'ai beaucoup vécu, on va dire, dans les internets, parce que on est à peu près toutes du même âge, peut-être les personnes qui sont plus âgées, je me trompe peut-être. Je pense pas que
tu peux juste préciser ce que c'est les internets pour les gens qui nous écoutent.
Oui, je vais. Donc, les internets, c'est une association qui œuvre à la mise en avant, à la visibilité des femmes et des personnes non-binaires qui font des vidéos sur internet. Que ce soit sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok, sur Instagram, sur n'importe quel réseau social qui existe où on peut faire de la vidéo. Et du coup, c'est une association qui est née depuis, qui existe depuis quelques années et que j'ai rejoint l'année dernière, si je me trompe pas, dans lequel je suis bénévole. Du coup, on monte des projets. En ce moment, on est en train de parler en off d'organiser la cérémonie de remise des prix qu'on a de notre concours vidéo, etc. Donc, il y a plein de choses qui se font. Et on a un Slack interne pour discuter et pour se mettre à jour sur les projets, s'organiser et tout. Et c'est un truc hyper important pour nous. Il y a même un bot qui rappelle genre toutes les deux semaines sur Slack. N'oubliez pas que les internets, c'est une association, que des fois on peut ne pas être d'accord, mais que ça veut pas dire que on n'est pas d'accord avec la personne. C'est juste un avis qui a discuté, etc. Et puis truc très régulier aussi qu'on fait, des sorties bénévoles, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour parler taf, et pour des fois si on n'est pas d'accord avec, je sais pas, un invité à inviter à nos masterclass ou une couleur à changer sur l'illustration. Ça veut pas dire qu'on n'est pas d'accord avec l'entièreté de la personne, c'est juste qu'on n'est pas d'accord avec l'avis que la personne a pu mettre, ou avec un texte, ou avec un mot que la personne a pu mettre. Mais je pense que c'est hyper important aussi de savoir prendre du recul sur son travail, et de se dire non, ce n'est pas mon travail entier qui est remis à niveau. Quand on est graphiste, par exemple, si la personne n'a pas accepté une proposition, c'est pas mon travail entier, ma créativité qui est remise en cause, c'est juste le choix stratégique que moi j'ai pu faire, comme je dis, on peut tous avoir des biais, on peut tous faire des erreurs, on peut tous être capable de se remettre en question s'il y a des choses à revoir, et de savoir faire la différence, encore une fois, c'est pas facile, et si vous arrivez à le faire, big up à vous, mais c'est pas quelque chose qui est facile en fait, et ça prend du temps aussi à se mettre en place.
Ce que j'entends dans ce que tu dis là, c'est réussir à se désidentifier de notre œuvre entre la personne qu'on est et le travail qu'on fait, et que s'il y a trop d'identification, effectivement, dans les relations qu'on peut tisser avec des collègues ou des clients ou des prestataires, si je suis mon travail et qu'il y a un truc qui se passe de frustrant ou de pas bien dans le travail, du coup forcément ça impacte la relation avec l'être humain, alors que si on sait j'ai mon travail mais ce n'est pas tout moi, on peut poursuivre la relation au-delà, quoi. C'est ça que j'entends.
C'est tout à fait ça.
On a pas mal parlé là de la relation qu'on a eue dans notre travail en 3 ans, et on reviendra certainement dessus avec ma prochaine question. Mais moi, ce que j'aimerais aussi que les personnes qui nous écoutent trouvent dans cette conversation, c'est un peu notre bilan public d'analyse de toute l'aventure qu'on a vécue ensemble. Et pour resituer, quand Diane m'a rejoint en stage à l'époque, c'était une phase de gros développement pour le podcast. Je pense que c'était la seconde saison du podcast en 2020. Ouais. Et Diane a commencé à m'aider à faire des micro-contenus où on publiait sur LinkedIn des extraits du podcast pour toucher de nouvelles personnes, et ainsi de suite. Et à l'époque, j'étais 100% seul. Je faisais tout seul, les formations, le coaching, le podcast, et encore, il y a plein de choses qui n'existaient pas encore. La communauté n'existait pas encore à l'époque, Inside Freelancing. Mmh. Et du coup, Diane a vraiment vu à mes côtés tout le développement de l'entreprise, presque du moment de la naissance du podcast. Enfin, voilà, ça faisait 1 an que le podcast existait, et ça a un peu été la pierre centrale de tout. Et la question que j'ai envie de te poser, Diane, c'est, à ton sens, dans tout le développement de ce que l'entreprise a été dans le passé et ce que l'entreprise est devenue aujourd'hui, ou Voilà, j'ai plus trop cette posture de freelance solopreneur, mais plus une posture de CEO, même si c'est pas j'ai pas encore une habitude de le dire. Tu dirais que ça a été quoi les grandes phases de cette transformation que toi t'as vécu de l'intérieur, mais que t'as aussi vu moi vivre, quoi.
Je pense qu'une des grosses phases qui a été peut-être importante, c'était aussi une question de posture et de mindset pour toi. Je pense que c'est aussi une question qui peut être très difficile quand on se dit « j'ai envie de passer à l'étape au-dessus, mais j'arrive pas encore à l'incarner en moi », à avoir une posture de me dire « bon, bah, je passe à un niveau ». Et je pense que ça a été un gros sujet pour toi de aussi te dire est-ce que c'est le bon choix à faire. Il y a une chose qu'on n'a pas dit, mais durant ces 3 ans, il y a des choix aussi où, de structuration interne, etc., qui n'ont pas été mises en avant, enfin qui n'ont pas été faites par moi. Au bout de la première année, je crois, ou un an et demi, tu as fait appel à Sonia Laurent Bourg, où du coup, elle nous a aidé à restructurer les choses. Et il y a plein de choses qui se sont mises en place, des nouveaux outils pour nous aider à comprendre un peu plus l'entreprise. Je crois que c'est un vrai sujet de mindset avant tout, se dire passer d'une étape. Je sais pas ce que toi t'en, de ce que tu te souviens et tout.
Clairement, je pense que ça a été effectivement un des gros basculements. Et c'est pour ça que là, je dis CEO et solopreneur, c'est quelque part deux identités. Mmh. Toi, tu as utilisé le mot incarné qui est très juste, c'est que je me souviens, je crois que c'était exactement autour du moment où, ou alors au moment où j'ai décidé que j'avais besoin de quelqu'un pour accompagner cette phase, et c'est là où Sonia est intervenue pour accompagner la phase de transition de « je pense comme quelqu'un qui est seul » à « je pense comme quelqu'un qui a une équipe et qui ne fait plus tout ». Même si tu étais là à me soutenir depuis déjà un moment, mais je me souviens que c'était intense, ce changement d'identité. Et je me souviens même que c'était pendant un des confinements au mois d'avril, il me semble. Ouais. Je m'étais fait un petit carnet et j'avais appelé ça journal d'un CEO et j'avais commencé à faire des petits exercices d'incarnation qu'on fait faire parfois à nos clients sur écrire à quoi ça ressemble la réalité dans ce nouveau personnage ou cette nouvelle identité de nous. Mais ouais, je me souviens que ça a été une bonne phase transitoire, ça, de passer de l'identité de « je suis un freelance et peut-être je délègue un ou deux petits trucs » à « je pense mon entreprise comme plus grande que moi avec une équipe, des gens qui ont des responsabilités, presque où je mets plus le nez dedans ». Ouais, vraie phase intense.
Mais je pense qu'il y a eu 2 étapes dans notre collaboration. Il y a eu l'étape où t'as pris le temps, du coup, de structurer avec Sonia. Donc, ça a été une grosse étape où, du coup, en gros, dans mon métier, on va dire, de Diana Taïa, chez Diana Taïa Corporation, il y a eu plusieurs métiers, on va dire. Oui. Le premier, ça a été freelance, bras droit, un peu de touche à tout. Après, il y a eu freelance bras droit marketing où j'en prenais des contenus, j'en faisais sur les réseaux sociaux, etc. Et on mettait quelque chose en place. Et puis il y a eu Diane chef de projet. Et après, il y a eu après une autre étape. Mais du coup, il y a eu une étape entre je change avec qui je travaille déjà pour lui donner une place qui est plus qui est plus en accord avec ce qu'elle fait et aussi là où j'en ai plus besoin. Et puis il y a eu une autre étape où du coup il y a eu pas juste Diane enfin il n'y a pas eu Thomas Burbidge et Diana Taïa qui travaillent, mais il y a eu Thomas Burbidge plus une équipe qui travaille au service d'une entreprise.
Ouais.
Et du coup il y a eu plusieurs steps et plusieurs étapes dans la structuration, c'est sûr.
Ouais, je pense que le moment où tu prends cette casquette chef de projet, ça coïncide avec une phase que je pense est très importante avec ce sujet d'incarnation, de devenir CEO, c'est le partage et la transparence de l'information dans la boîte. Là où, dans cette posture freelance, et les gens qui nous écoutent ont certainement ça, on peut se contenter d'avoir juste tout dans sa tête, parce que ça suffit. Moi, à l'époque, quand j'étais freelance, t'avais pas toutes les infos de ce qui se passait dans la boîte. Moi, j'avais toutes les infos dans ma tête. Je te donnais ce dont tu avais besoin pour, par exemple, faire des extraits du podcast en audio. Et ça suffisait. Et pour moi, il y avait du coup la phase changer d'identité. Et après ça, il y a eu la phase incarner dans des actions concrètes. avec des outils comme ClickUp, par exemple, qu'on a mis en place. Le partage de l'information avec toi, pour commencer, mais par extension, les autres membres de l'équipe qu'on a commencé à constituer autour de nous. Et ça, c'était un vrai cheminement pour moi, de réussir à avoir la rigueur et la discipline de partager toutes les infos et de les mettre à disposition à différents endroits pour que les gens sachent, OK, il se passe ça, voilà les projets futurs, voilà où on en est en termes d'avancée, et que les infos soient disponibles, quoi.
Bah, moi, quand je parle de structuration et de surtout, quand on pose des questions sur comment je fais pour structurer, qu'est-ce que je mets comme outil en place, j'aime bien rappeler aussi que les outils que je mets en place, donc ça peut être de mettre en place des plans de 90 jours, donc qui sont un moyen pour mettre en place des projets, pour suivre nos projets, etc., et l'avancée de ce qu'on peut faire. Ou que ce soit un dashboard clair où on suit les KPI toutes les semaines, tous les mois, etc. Déjà, je pense qu'il faut retenir une chose, c'est que les outils qu'on met en place, c'est pas fait pour transmettre des informations, mais c'est fait pour comprendre l'entreprise. C'est-à-dire qu'un tableau, par exemple, des KPI, c'est fait pour comprendre qu'est-ce qui se passe au-delà de juste on met des actions en place. Un plan de 80 jours, c'est fait pour comprendre c'est quoi ce qui se passe en termes de projet dans l'entreprise. Des process, c'est fait pour comprendre comment on fait pour mettre en ligne un article de blog ou faire un podcast, des choses qui sont plus complexes, etc. Donc je pense qu'il faut déjà prendre ça en compte, et c'est aussi ce que j'ai pu faire, c'est mon travail, c'était vraiment de me dire maintenant je vais essayer de comprendre ce que Thomas a mis en place. C'est pas toujours très facile, mais l'idée c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne, pour que quelqu'un qui arrive et qui ne comprend pas l'entreprise et qui ne la connaît pas surtout, il puisse la comprendre le plus facilement possible avec des process, avec des informations sur les outils qu'on utilise, avec des formations en interne, avec plein... Les outils peuvent être multiples, hein. Vous pouvez faire, si vous êtes dans des vrais locaux, vous pouvez faire un tableau des KPI en réel si vous avez envie, soyez fou. Mais l'idée aussi, c'est pas de faire un truc qui soit plus complexe que l'entreprise. Dire que c'est cool de faire des process et de se casser la tête à faire 10 000 process avec des couleurs différentes, avec des outils différents, avec tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre l'entreprise. Et j'aime bien dire ça, je dis un process, c'est fait pour être compris par un enfant de 5 ans.
Ouais.
Donc, on fait simple. On n'est pas en train de rajouter des trucs de je sais pas qui. Non, on fait simple, en fait. Et c'est aussi pour ça que un wiki interne, c'est souvent quelque chose qui est un peu obscur, parce que les gens se disent « Non, mais c'est pas important ». Parce qu'en fait, moi, je la connais, l'entreprise. Je sais, elle est dans ma tête. Ça fait, je sais pas combien de temps, quand t'as lancé le podcast, tu te dis, ouais, mais ça fait un an que je connais le podcast. Je sais comment il fonctionne. Je sais comment faire pour faire un épisode de podcast. Je sais c'est quoi mes questions que je pose, etc. Mais, l'idée, c'est vraiment de faire comprendre l'entreprise à ses collaborateurs, à ses stagiaires, si vous en avez, alternants, etc. Plutôt que de, mettre des informations qui vont pas être réellement nécessaires en soi.
Ouais. C'est rendre visible, au final, les processus qui sont quasi automatiques dans notre tête, parce que on a l'habitude de faire ce qu'on fait et on comprend et on sait ce qu'on fait.
Ouais.
C'est effectivement rendre ça accessible à d'autres personnes qui vont venir faire partie de l'aventure, si toutefois notre objectif c'est recruter, mais là c'est un peu ce cheminement dont on parle là, de passer de seul à plusieurs, quoi. Et t'as touché un truc là en parlant de la surcomplexification. Une autre des questions que je voulais te poser, et je pense que ça fait partie de la réponse, c'est dans ce cheminement qu'on a eu là pendant ces 3 dernières années, de passer de Thomas seul qui fait sa petite tambouille en tant que solopreneur à il y a une boîte, il y a une équipe, il y a des équipes, il y a des processus en place. Tu dirais que c'est quoi les principales erreurs qu'on a faites ensemble, ou que j'ai faites moi personnellement, ou que tu as faites toi personnellement, mais comme on a vécu ça ensemble.
Je pense qu'on s'est un peu complexifié. Enfin, je pense que on s'est complexifié la tâche. Et que par moment, tu allais peut-être un petit peu trop vite sur des choix de recrutement, ou même juste des informations qui auraient dû être transmises et qui n'ont pas été. Je pense que c'est un truc où moi j'avais pas assez de clarté aussi sur la vision que t'avais pour le futur. Alors vraiment, s'il y a des gens qui me disent oui, moi ma vision elle est claire, je sais, je veux faire ça, je veux une entreprise avec tel truc, oui, c'est pas un problème. Mais il y a la vision externe de l'entreprise, donc genre les projets qu'on veut faire, les formations qu'on a envie de développer, les podcasts qu'on a envie d'être interviewé, je sais pas, les lieux qu'on a envie d'ouvrir à notre nom. Et puis il y a la vision interne de l'entreprise. C'est-à-dire, OK, dans 5 ans, j'ai envie de sortir un livre. Mais du coup, ça veut dire qu'il va se passer quoi dans l'entreprise? Ça veut dire que dans 5 ans, peut-être, est-ce que dans 5 ans, ça veut dire que je contacte une maison d'édition et que la maison d'édition me publie? Ou est-ce que ça veut dire c'est moi qui ouvre ma propre boîte d'édition et c'est moi qui publie mon livre? Et je pense que c'est peut-être une erreur que tu as faite où du coup, j'avais pas assez de clarté sur comment ça se passe dans le futur du futur. C'est-à-dire, je savais ce qui se passait dans l'année, je savais les projets qui allaient se dérouler et j'arrivais à organiser le planning pour ça. Mais j'avais pas assez de clarté aussi sur le très long terme et comment ça allait se passer à l'intérieur. Et ça revient à la phrase que je disais de Régis Ménia qui dit « La boîte, c'est la projection de ce qu'il y a dans la tête du fondateur. » Et moi, j'avais pas encore assez de clarté, en fait, sur qu'est-ce qui se passait dans la tête de Thomas. Parce que je suis pas dans sa tête, encore une fois, je le dirai des milliers et des milliers de fois, je ne suis pas dans la tête de Thomas. Et c'est quelque chose qui me manquait, en tout cas pour moi, pour aussi me projeter sur le long terme, que ce soit sur plein de sujets. Quoi.
Ouais, en tout cas, dans la surcomplexification et le fait de parfois aller vite, moi, ça me parle dans le sens où un des pouvoirs que je m'identifie, quelque chose que je fais très facilement, c'est la vision long terme. Et souvent, je le dis, je pense que je peux tracer ce que j'ai envie de faire avec mes projets, avec ma boîte et d'autres potentielles boîtes dans le futur. Je peux arriver à dresser ce tableau sur 20, 25, 30 ans. Et c'est vrai que du coup, j'ai cette tendance à me dire, à essayer d'accélérer vers ça très rapidement. Ce qui a des avantages, c'est que du coup, quelque part, j'arrive à contracter le temps et à faire des choses passer de idée à exécution assez rapidement. Et en même temps, ça a des inconvénients, qui sont, par exemple, la surcomplexification de certains endroits parce que j'ai envie d'être plus loin que la réalité du moment. Qui sont quelque chose que j'ai beaucoup vécu ces 6-9 derniers mois et dont tu as été témoin dans la boîte, qui est le surinvestissement, notamment financier, mais aussi énergétique, où j'essaye de vivre trop tôt dans le futur, quoi. Ouais. Et ça, je sais que c'est un de mes pouvoirs, de voir facilement la vision long terme et de chercher à l'incarner vite. Et en même temps, ça a des inconvénients et je pense qu'il y a eu pas mal d'erreurs de structuration qui ont été liées à ça, quoi. Vivre dans le futur, alors que faut pas oublier qu'il y a des étapes avant d'y aller.
Je peux te poser une question? Je peux?
Ouais, bien sûr.
Parce que c'est un peu mon interview aussi.
Quelque part, c'est plus une conversation qu'autre chose. Donc, comme tous les épisodes.
Est-ce que, si tu devais, alors je dis pas, si tu devais pas travailler avec moi, mais si tu devais peut-être prendre un pas en arrière et si tu pouvais remonter le temps, est-ce qu'il y a des erreurs que toi t'as faites que tu ne referais plus? Que ce soit dans les 3 ans, mais juste aussi dans le moment un peu charnière que tu as vécu cette année.
Je ne sais pas si c'est des choses que je ne referais plus, parce que moi, j'ai beaucoup ce truc de me dire tout ce que je fais m'apprend plein de choses. Donc là, par exemple, je parlais de surinvestissement. La période, le dernier trimestre de l'année 2022 et tout le premier semestre de l'année 2023, la majorité du temps, on a dépensé plus que ce qu'on a fait rentrer de chiffre d'affaires tous les mois. Et ça, c'est allé avec une stratégie d'investissement sur laquelle j'ai accéléré en fin d'année dernière, qui a eu avantages et inconvénients. Un des avantages, c'est que j'ai énormément appris en tant que gestionnaire de boîte. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans mes outils de pilotage financier. Enfin, voilà, j'ai appris énormément sur cette dimension-là. J'ai appris aussi énormément sur moi parce que mon système nerveux a vrillé complet à partir d'un certain niveau d'investissement. Donc j'ai appris des choses sur moi, le stress. J'ai jamais été une personne stressée, mais j'ai été beaucoup stressé à cette période-là. Donc j'ai découvert des choses sur moi. Donc c'est plein d'avantages. Et je voudrais pas les troquer, parce que c'est des compétences hyper importantes pour le futur. Donc je sais pas si je changerai des choses, mais en tout cas, certaines des choses que j'ai compris sur moi et sur ma boîte, il y en a une qui est très intéressante, c'est que comme mon métier... C'est un métier de formation, de transmission et d'accompagnement. Il y a toujours cette part de moi qui a envie de un peu prendre les gens sous mon aile, les aider à s'améliorer, à devenir meilleur. Et ça, c'est génial quand c'est pour les clients. Mais je vois que j'ai un biais sur ça dans comment je recrute. Et que du coup, j'ai un biais à recruter des personnes qui sont plus juniors que ceux dont j'ai besoin. Parce que j'ai envie de trouver la perle rare, tu vois. Et ça, je m'en rends compte a posteriori, Ça ne veut pas dire que je regrette les recrutements que j'ai faits. Je suis ravi des recrutements que j'ai faits. Je suis ravi des êtres humains avec qui je travaille et j'ai travaillé. Mais je prends conscience de ça parce que bah, c'est... Et encore une fois, on revient à ce qu'on disait au début. C'est un biais personnel de l'être humain que je suis qui s'incarne dans les décisions business que je dois prendre. Et c'est là où, du coup, bah, peut-être s'il y avait à refaire avec l'apprentissage que j'ai eu là et si je conserve mon savoir sur moi, peut-être je me dirais... Qu'est-ce que je peux mettre en place comme outil, comme processus pour m'aider à ne pas tomber dans ce biais-là? Je pense que c'est le truc qui me vient.
Bah, je pense que c'est important, et ça j'en parlais, j'ai fait une interview il y a quelques temps et je prenais cette métaphore et je trouve qu'elle est assez bonne. Pendant tout ce processus aussi où je me suis beaucoup questionnée sur mon entreprise et cette dernière année 2022-2023, j'ai, grâce à ma sœur, j'ai un peu mis au clair ma vision. Et au début, j'étais un peu avec ma sœur, j'étais oui, enfin, vision, je sais ce que je veux. Et quand on a fait l'exercice avec ma sœur, elle m'a dit bon, quand tu construis ta vision, c'est pas ce qui est important, c'est pas ce que tu veux, c'est ce qui est important pour toi. Et en fait, en faisant ce processus, je me suis aussi questionnée, je me suis dit, quand tu fais par exemple un recrutement ou quand tu investis dans un outil, la question c'est, à te poser, c'est pas est-ce que j'en ai envie, mais est-ce que c'est important pour moi et est-ce que c'est un besoin. Petite métaphore, par exemple, j'aimerais beaucoup manger du caviar tous les jours. J'aime pas trop le caviar, mais c'est un exemple. Si vous êtes végé, vous aimeriez beaucoup, je sais pas, manger du foie gras tous les jours. Par contre, j'en ai pas foncièrement envie et besoin de manger du caviar tous les jours ou du foie gras tous les jours. C'est pas important pour moi. Je sais que je vais pas en avoir besoin, que je vais pas investir là-dedans, etc. Autre exemple, j'aimerais beaucoup, et c'est très important pour moi, de faire un TED Talk un jour sur mon parcours, sur ce que j'ai pu apprendre, etc. Bon. Donc vraiment, je me bats un peu tous les jours dans mon entreprise pour en faire un. C'est important pour moi et j'en ai vraiment envie, mais j'en ai plus besoin parce que c'est aussi un peu un challenge personnel que j'en ai envie de construire de faire un tattoo. Et je pense que c'est important de se questionner sur ses besoins et sur ses envies quand on est quand on est sur l'entreprise. En fait, le plus important, on n'est pas une asso. Une asso, ça a pas besoin de, ça a pas un intérêt financier une association. Ça a besoin d'être en accord avec ses valeurs. Une entreprise, ça c'est ce que j'ai appris. En première dans mon cours de SES, c'est une entreprise, son objectif, c'est de faire du profit, de faire de l'argent. Donc oui, je sais, c'est con à dire, on me l'avait entendu peut-être des milliers de fois, et je me mets en mode, oui, mais moi, mon entreprise, c'est important pour moi parce que j'ai besoin que ce soit en accord avec mes valeurs. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que si mon entreprise, elle fait du profit, si mon entreprise, bah, elle me permet de vivre, elle me permet de payer mon loyer, elle me permet de pas faire des crises d'angoisse tous les soirs parce que j'ai pas assez d'argent pour faire mes courses, en fait, elle est encore plus en accord avec mes valeurs féministes, parce que ça veut dire que j'arrive à vivre de mon propre travail, de mon propre labeur, on va dire. Et je pense que c'est hyper important quand on est dans l'entreprise et quand on commence à recruter, quand on commence à déléguer des choses, quand on commence à investir dans des projets, dans des formations, dans des masterminds, dans plein de choses, de se poser la question. Oui, je sais que c'est un gros investissement, mais du coup, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Peut-être au fond de moi, c'est juste un truc qui me fait vraiment envie parce que ça va me faire super plaisir, et puis ça va faire gonfler mon ego de me dire, j'ai acheté ce truc, j'ai délégué, parce que c'est important. Mais je pense que c'est hyper important de vraiment se poser la question, de se dire, est-ce que c'est important pour moi, et est-ce que c'est important pour l'entreprise? Qu'est-ce qui va me montrer aussi, si je commence à déléguer, par exemple? C'est quoi les critères de la personne qui vont faire que je vais dire oui, parce que c'est important pour moi d'avoir une personne qui est pas d'accord avec mes valeurs, qui a eu d'autres expériences dans le passé, qui a travaillé avec d'autres solopreneurs, avec d'autres freelances, etc. Qui a travaillé dans le même secteur, qui m'a été recommandé par d'autres personnes. Et avec ça, on switch un peu le cerveau de mindset, de se dire, bah, je suis pas là en train de me dire, ouais, c'est cool de déléguer parce qu'elle a l'air sympa, la personne. Mais, j'ai aussi appris avec mes stages, on délègue pas, enfin, on travaille pas avec quelqu'un parce qu'il est sympa. Enfin, oui, il est sympa, c'est une de ses compétences. Mais on travaille avec quelqu'un parce qu'il est compétent et parce qu'il est en accord avec ce qu'on a envie de construire pour l'entreprise.
Ouais.
Donc, je ne sais pas si ça te parle d'ailleurs.
Ce que moi j'entends là-dedans, c'est le besoin d'avoir beaucoup de clarté sur, en anglais j'ai envie d'utiliser le terme outcome, mais sur la finalité du projet qu'on veut mener en recrutant quelqu'un pour l'instant, parce que là j'ai l'impression que tu en parlais surtout en termes de recrutement. Et moi j'ai une dissociation qui m'est venue aussi, que j'ai l'impression que je vis de plus en plus, c'est faire le poids et la mesure entre moi, la personne que je suis, et le rôle que je joue pour l'entreprise, qui est notamment un rôle de décideur, et l'entreprise en elle-même. Et parfois, mais dans ce que tu me dis, ça me parlait de ça, parfois mes préférences personnelles ne sont pas les meilleures choses pour l'entreprise au sens global qui me dépasse. Et que bah, peut-être que la meilleure chose pour l'entreprise, à un instant T, c'est quelque chose qui ne va pas forcément améliorer de dingue mon propre petit quotidien dans le rôle que je joue pour l'entreprise. Et ça, c'est un truc qui a été hyper intéressant pour moi de me rendre compte que bah, tout comme il y a ce changement de posture de solopreneur à CEO, quelque part, c'est une dissociation qu'on vit de notre entreprise, là où quand on est freelance, bah, Thomas égale sa boîte. Quand on change de statut et qu'on grossit et qu'on a des gens autour de nous, bah, Thomas n'égale plus sa boîte. C'est plus gros que moi maintenant, la boîte. Et bien heureusement, parce que j'étais quelque part, et il y a des endroits où je le suis encore, parce que ça fait partie du processus, mais j'étais encore beaucoup le goulot d'étranglement de la boîte.
Non, mais je pense que c'est hyper important.
Enfin, voilà, et... c'est ça que j'entends.
Ouais, ouais. Non, mais je comprends totalement. Et je pense que c'est hyper important de se poser aussi des questions quand on... Je dis n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui me propose une interview pour un podcast qui est genre hyper reconnu dans le métier dans lequel vous êtes. Disons n'importe quoi. Vous êtes graphiste et il y a Adobe qui vous propose une interview sur leur chaîne YouTube. Projet de ouf. Mais le projet, il n'est pas payé. Et c'est pour demain parce que la personne qui devait être interviewée, elle a dit non à la dernière minute. Sauf qu'en fait, demain, vous avez tout un projet à rendre et vous devez faire tous les trucs qui sont hyper stressants et tout. En fait, juste se poser la question, c'est quoi les conséquences de si j'accepte cette proposition? Alors, les conséquences matérielles, dire quelles tâches je vais devoir faire, mais aussi les conséquences mentales. Moi, j'ai déjà dit non à des personnes parce que je savais que j'allais avoir une semaine très chargée en termes d'appels, que ça allait me prendre énormément d'énergie. Et je savais, et j'avais conscience, j'entendais le message de la personne et je voyais tout le déroulé de ce qui allait se passer dans mon cerveau. Dire que si j'accepte ça, c'est-à-dire que je vais devoir avoir encore plus de charge mentale. Je vais devoir, enfin, moi, c'est un vrai truc pour moi de d'être en contact de personnes. Je sais que ça l'est pas toujours, mais c'est un vrai cheminement et c'est pas facile, bien sûr. Mais de se poser la question, c'est quoi les conséquences matérielles? Donc, par exemple, si, je sais pas si c'est un outil que je vais devoir acheter, et bah, c'est quoi les conséquences? C'est-à-dire que ça va me coûter, X euros, donc ça va devoir dire que je vais devoir augmenter mes prix pour être dans mes frais. Ça va devoir dire aussi que je vais peut-être baisser mes prestataires parce qu'en fait, il faut que je rentre dans mes frais et que je peux pas augmenter mes prix. Enfin, c'est plein de ça. Mais il y a aussi les conséquences juste mentales. Tu parlais de changement d'identité, de savoir prendre des décisions. Il y a beaucoup de choses que t'as pu faire. Je pense notamment à, au Freelance Foundation Tour avec Adobe où t'étais, disons les choses, t'étais épuisé durant la tournée. Et
c'était très intense, ouais.
Et je dis pas ça parce que j'ai été dans les coulisses. Vraiment, il y a un super vlog qui a été publié où on voit comment c'est épuisant aussi de faire des projets, d'accepter beaucoup de choses. Et je pense que juste se poser les questions, se poser les questions des conséquences mentales que ça va pouvoir avoir. Après, si pour vous c'est ok de être fatigué, etc., pas de problème. Vraiment, c'est votre décision, c'est pas la mienne. Mais je pense que c'est hyper important de les avoir en tête.
Ouais. Bah ça, tu vois, c'est un truc, je pense, qui vient aussi de la structuration que j'apprends. Parce que du coup, j'aimerais bien que les gens repartent aussi de cette conversation avec des trucs assez concrets à tester, à mettre en place s'ils sont en train de vivre, et si ils et elles sont en train de vivre ce chemin-là aussi. Et bon, il y en a plein qu'on n'a pas posé, mais un des trucs qui m'a beaucoup aidé, moi, là où je suis pas encore très... je suis pas le meilleur, disons, c'est un outil qui s'appelle...
Toggle?
Non. Enfin oui, on peut utiliser Toggle, mais ça s'appelle un plan de charge. Okay. Et le but du plan de charge, c'est réussir à estimer à quel point on a une charge de travail qui est plus ou moins conséquente. Donc l'idée, c'est de définir, ça représente, c'est quoi 100% de charge de travail, et estimer à quel point on en est. Et du coup, c'est tout con, mais c'est lister toutes les tâches qu'on fait demi-heure après demi-heure chaque jour où on bosse, et voir à par exemple, combien d'heures on est par semaine, et ainsi de suite, et d'identifier quel type de tâches on fait à quel endroit. Et moi, ça m'a été très utile. Je l'ai mis dans un des bilans de fin d'année que je publie sur le blog à la fin de chaque année. J'avais mis ma prise de conscience avec ça. Ça m'a aidé à voir que je passais le clair de mon temps sur l'exact opposé de ce qui était la priorité de mon rôle dans la boîte. mais ça parle aussi de ce que tu dis là, c'est que je pense que si j'avais fait mon plan de charge pendant la tournée avec Adobe, j'explosais le plafond de ce que je trouvais être juste comme le 100% de charge pour moi, quoi.
Je pense que c'est intéressant ce travail, et je pense que c'est aussi intéressant de voir quand on ne fait pas le travail. C'est-à-dire que toi, tu l'avais mis en place, et au bout d'un moment, t'as arrêté de le faire. Parce que t'étais beaucoup en déplacement, et que du coup, t'avais pas l'instinct, mais le déclic de te dire, je vais traquer mon temps.
Ouais, et l'espace,
Ouais, l'espace mental pour le faire.
Ouais.
Moi, ça m'arrive aussi, moi, je traque pas mon temps, etc., mais ça m'arrive aussi de genre être, je sais pas, d'avoir fait une semaine ou d'avoir fait un week-end où j'ai beaucoup, j'ai fait un week-end avec les internets où on a fait un événement et tout. Et le lundi, je me réveille et puis je vois ma to-do et je suis, et en fait, je fais genre 1% de ce que j'avais marqué. Ou genre, même pas de ce que j'avais marqué. Parce qu'en fait, t'as ton cerveau aussi, il est pas toujours, c'est pas un militaire, en fait. Il est pas en train de se dire, je vais traquer mon temps tous les jours parce que on m'a dit que c'était important. Il y a aussi juste un biais où des fois on est fatigué, des fois il est à 11h et l'énergie elle est pas là. Donc je pense que c'est aussi intéressant d'identifier quand est-ce que on est fatigué et on n'a pas envie de le faire, parce que ça peut aussi influer sur le travail qui est en cours, quoi.
Et ça, je pense que c'est un truc important à partager, c'est que il y a pas je suis pas structuré et ensuite je suis structuré et c'est bon pour tout jamais. C'est des vagues, et même là, les choses qui se passent dans l'entreprise, pour la personne qui pilote l'entreprise, dans l'équipe, etc., etc., ont des influences sur la forme de la structuration et à quoi ça doit ressembler pour que ce soit pertinent et fluide. Donc là, par exemple, on avait un mode de fonctionnement avec Diane, avec toi, du coup, dans comment on bosse avec les gens, on fait des points à telle régularité, avec telle structure. Le fait que on décide d'arrêter notre collaboration, ça a évidemment des conséquences sur la forme concrète de la structuration pour bien piloter l'entreprise. Il y a des choses qui vont nécessairement bouger de par ton absence. Certaines qui vont être peut-être plus simples, certaines qui vont être peut-être plus complexes. Enfin, voilà, ça va faire bouger des choses et la question, c'est de se poser qu'est-ce qui a besoin de bouger. Et dans ce sens, effectivement, je pense pas que l'objectif, c'est d'avoir des choses qu'on fait et qu'on n'arrête plus jamais de faire, comme cet exercice du plan de charge, que moi j'ai surtout fait pour des analyses ponctuelles, pour mettre en place des changements, plutôt que pour avoir un suivi régulier, constant, toutes les semaines de mon temps de travail. Mais on va, comme tu dis, s'en rapprocher, puis en fonction de la vie, s'en écarter, puis s'en re-rapprocher. Je pense pas que ça existe un moment où c'est « Ok, c'est bon, tout est là, on conserve ça, on bouge plus trop », bah non, ça bouge, la réalité change. Et je pense que plutôt que de dire on se structure et on reste structuré, je pense qu'on est constamment en train de se restructurer. Et c'est des étapes et des phases qui viennent et qui s'en vont petit à petit.
Non, mais je suis totalement d'accord. Et comme tu disais, le plan de charge, tu l'as fait parce que tu voulais comprendre comment tu fonctionnais.
À un certain moment, ouais.
À un certain moment. Et c'est ça, en fait. Il y a aussi un tableau, un dashboard pour suivre nos KPI, donc nos indicateurs de performance, qu'on a mis en place pendant un moment. Et c'est même en train de changer qu'on va arrêter de le remplir parce qu'en fait, on n'a plus vraiment besoin. On n'a plus vraiment le besoin intense de faire ça. Et même chose pour plein d'outils qu'on a pu mettre en place, quoi.
Mais je pense que l'exemple du tableau des indicateurs de performance, c'est un des super exemples d'un endroit où il y a eu de la surcomplexification à essayer de tout suivre plutôt que de réussir à vraiment prioriser c'est quoi les 4-5 chiffres qu'il faut regarder toutes les semaines plutôt que de se dire on va regarder les réseaux sociaux, le podcast, la newsletter, le machin, le truc. Bon, en fait, c'est trop, quoi. Et ça, je pense que c'est un... Enfin, voilà, on revient sur cette question que je te posais de à ton sens, c'est quoi les erreurs qu'on a faites. Pour moi, la surcomplexification, elle s'incarne de plein de manières. Mais du coup, j'aimerais bien maintenant switcher sur l'inverse. C'est à ton sens, dans ce travail de structuration de seul à plusieurs, solopreneur, CEO, etc., c'est quoi au contraire les trucs qu'on a super bien fait? Peut-être plus que ce que t'as pu voir par ailleurs.
Rien du tout. Moi, je rigole.
Bim, fin du podcast. Non, quand même. Sûr qu'il y a des choses qu'on a bien faites.
Je pense que le boutique interne, ça va vraiment, vraiment un gros point qu'on a pu vraiment bien mettre en place et que j'ai vraiment plus piloté en plus.
Les process, tu veux dire?
Ouais, les process, vraiment. Et puis, la clarté aussi dans les points réguliers. Alors, moins les points hebdomadaires, mais les points mensuels et les points trimestriels, on prenait vraiment du temps pour creuser ce qu'on allait faire et les projets qu'on a identifiés. Mmh. Donc, voilà. Et vraiment, pour les process, identifier vraiment c'est quoi ce dont les personnes ont besoin, les outils, les process, mais aussi, par exemple, les bonnes pratiques. Je pense à une personne que j'accompagne en ce moment et qui est biographe. Et qui, du coup, pour elle, les bonnes pratiques hyper importantes à avoir dans son entreprise, c'est l'orthographe. Ou si, par exemple, comment on nomme les fichiers ou comment on nomme les choses. Donc, dans une agence marketing, c'est hyper important d'avoir de la clarté sur comment on organise ses fichiers. Dans les trucs de formation, etc., ça va être les bonnes pratiques de réponse, par exemple, de template de réponse. Et en fait, ça fait gagner énormément de temps de faire ça. Parce que ça n'a pas 30 000 messages à la suite sur Slack. Et puis, c'est un énorme gain de charge mentale. En fait, moi, je le voyais aussi quand je faisais les process. Enfin, je ne les ai pas tous les jours, mais je me prenais un temps, par exemple, tous les mois, où je prenais les process un par un et puis je les agrémentais, je documentais, je mettais les trucs à jour. Ben, en fait, c'est un vrai truc aussi de voir à quel point il est chargé aussi. Parce que pour clôturer et tout notre collaboration, je suis allée re-regarder ce que j'avais fait. Et j'ai vu tous les process qu'on avait en stock. En fait, c'est, désolé de dire ça, c'est hyper satisfaisant pour quelqu'un qui est personnel de voir qu'il y a autant de process parce que.
Non, mais c'est clair.
Ça veut dire que, en fait, l'entreprise, il y a une bonne communication. Il y a dire que les gens vont pas être perdus. Et ça m'a fait la même chose. Quand je suis arrivée dans les internets, elles ont aussi un énorme cas interne avec plein de fichiers, avec plein de documentation sur comment on fait pour, quand on est nouvelle bénévole, comment on fait pour remplir un ordre du jour, etc. Et c'est hyper important parce que, encore une fois, ça permet aux gens de pas être perdus, de pas être dans l'incompréhension de ce qui se passe.
Et, c'est clair. C'est
hyper important, quoi.
Pour donner un peu de clarté aux gens qui nous écoutent, qui comprennent peut-être pas exactement à quoi ça ressemble, en gros... quelque chose qu'on a développé avec Diane pour la boîte, c'est une grande base de données. Nous, on l'a fait dans Notion, mais ça peut être fait dans d'autres outils. Et dans cette base de données, il y a des explications de processus pour toutes les tâches, et je pense pas toutes de manière exhaustive, mais un grand nombre des tâches récurrentes de l'entreprise, comme par exemple comment monter et publier un podcast, comment le publier sur notre hébergeur, etc., etc. Et tous ces process ont soit une version vidéo où quelqu'un le fait et explique comment le faire, soit une version écrite avec les étapes individuelles pour le faire, et toutes ces tâches sont reliées avec les outils, les mots de passe des outils, enfin voilà, tout est centralisé. Et ça, comme le dit Diane, c'est incroyable à quel point ça aide. Quand y a quelqu'un qui arrive dans la boîte et on a besoin d'elle pour faire des choses, ben en fait tout est déjà posé sur comment le faire et on passe pas notre temps à faire des visios pour expliquer, à réexpliquer une fois que c'est perdu. On le met quelque part, c'est comme un tuto et les gens peuvent le consulter. Et c'est vrai que moi aussi j'ai cette satisfaction que ben, ça fait un an et demi, je crois, qu'on le nourrit et qu'à chaque fois que je fais quelque chose qui est pas dedans, je le filme et je le mets dedans. Et dans le temps, ça s'accumule, quoi. Et là, on a fait des trucs assez sexy où on l'a trié par fiche de poste, on l'a trié par grand chapitre de la boîte, par par outil. Donc, on peut regarder, OK, sur tel outil, tous les process associés. Du coup, c'est assez ouf, et petit à petit, quand on construit ça.
Et je pense que c'est nécessaire quand, par exemple, vous n'avez pas de profit, enfin, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas besoin encore, vous n'avez pas encore les finances pour avoir une business manager, une OBM, un bras droit, vous l'appelez comme vous avez envie de l'appeler.
Ouais, un profil comme le tien, tu veux dire.
Un profil comme le mien, parce qu'en fait, c'est un vrai outil de gestionnaire d'entreprise. C'est-à-dire qu'un gestionnaire d'entreprise, il est aussi là pour vérifier que toutes les communications, elles sont bien transmises dans la boîte, que tous les projets, ils sont bien répartis dans la boîte, qu'il n'y a pas des choses qui sont en retard, qu'il n'y a pas des choses qui sont... un gestionnaire d'entreprise, c'est quelqu'un aussi qui est un peu là, qui n'a pas vraiment de planning fait, mais qui est toujours là au qui-vive pour dire « Ah, il manque ça, est-ce que tu as besoin ?» Les processus sont ici. Et si vous n'avez pas encore les finances pour avoir quelqu'un que vous payez avec un forfait ou que vous, qui est salarié ou qui est apprenant, stagiaire, etc., bah, juste planifiez-vous 4 heures dans votre agenda cette semaine, faites une liste de 10 process à mettre en place, et bah, vous avez déjà votre outil interne qui est déjà commencé. Mais le commencement, c'est déjà une base de structuration, en fait. Et la chose à dire aussi, c'est que oui, il y a moi qui en ai fait des process, oui, il y a toi qui en ai fait, mais il y a aussi plein de personnes dans la boîte qui en ont fait. Oui. Et le wiki interne, c'est pas juste une personne qui a toutes les connaissances et qui les transmet au reste de l'équipe. C'est plusieurs personnes dans l'équipe qui, petit à petit, font des process, qui expliquent comment ça fonctionne, qui expliquent comment on fait un carrousel sur Instagram, qui expliquent comment on met un épisode de podcast en ligne, qui expliquent comment votre outil de formation il fonctionne, parce que c'est aussi ça. On parle de trucs marketing, mais il y a un truc tout con. Moi, je connaissais pas l'outil. Quand tu es arrivé, j'ai besoin qu'on m'explique comment ça fonctionne, etc. Oui. Et c'est complexe, Kartra. Ça, c'est le...
Oui, c'est un outil qui demande un peu d'usage pour s'y faire. Oui. Ouais. Mais je pense que ouais, ça, c'est pour quelque chose de très actionnable pour toutes les personnes qui sont là. Ça, c'est quelque chose par lequel on peut commencer, c'est de dire soit la méthode que vous propose Diane, c'est-à-dire vous fixez un créneau où vous vous y mettez, vous commencez à le construire. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est à partir de maintenant, à chaque fois que je fais quelque chose que j'ai pas documenté, je filme mon écran en train de le faire, et pour ça, vous pouvez utiliser des outils comme Loom. Je crois même maintenant Mac a un outil intégré pour filmer son écran. Enfin voilà, plein d'outils pour filmer son écran et parler en même temps qu'on fait la chose. Et juste, vous faites ça à chaque fois que vous faites une nouvelle tâche à partir de maintenant. Vous stockez ça quelque part. Et petit à petit, ça s'accumule sans même que vous vous en rendiez compte. Et ça, je pense ce processus de prendre ce qui est dans notre tête et ce qui est nos pratiques et les déposer quelque part pour que le jour où on a envie de travailler avec quelqu'un, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites et prêtes, plutôt que de se dire « Ah, je veux recruter, merde, faut que je structure tout ça maintenant. Ouais. » Pas évident de tout faire d'un coup, quoi. Et ça, je suis d'accord avec toi, Diane, je pense... je voulais juste dire, je pense que c'est un truc qu'on a super bien fait, ça.
Mais je pense que c'est important de faire une chose à la fois, de faire étape par étape, marche par marche, parce que je pense que il peut y avoir aussi un peu un biais de se dire je vais déléguer, ça va régler tous mes problèmes. Et spoiler, je ne vais pas perdre des amis, mais la délégation n'est pas toujours la meilleure solution. Désolée de vous l'apprendre, mais... Et aussi, c'est hyper important, et c'est aussi pour ça que mes offres maintenant, c'est plus de l'accompagnement, mais je trouve que c'est hyper important de savoir c'est quoi le travail de la personne avant de déléguer la tâche. J'explique, pour que ce soit un peu plus clair. Je pense que c'est hyper important de comprendre comment on fait pour construire un process, comment on fait pour construire un planning, qu'est-ce que c'est le travail de construire... un processus de commercial, un processus marketing, avant de se dire maintenant je vais le déléguer, parce que comme je dis, ça peut être une solution de facilité de déléguer, de se dire en fait ça va me soulager. Je dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est une solution, mais que c'est peut-être pas toujours la meilleure, et de savoir le labeur entre guillemets que ça peut être de aussi avoir des trucs en tête, de savoir qu'il faut rappeler à l'équipe qu'il y a un point hebdomadaire, etc. c'est hyper important, parce que comme je dis, moi c'est facile pour moi, en fait. C'est facile parce que c'est mon métier, et c'est facile parce que j'ai les compétences et l'instinct pour. Quand c'est quelqu'un dont c'est pas totalement son métier et que c'est pas encore, son cerveau, c'est aussi intéressant de se dire, maintenant je vais essayer de comprendre c'est quoi le métier des personnes à qui je délègue. C'est comme je dis, comme toi tu dis, c'est hyper facile pour moi de me projeter dans je sais pas combien de temps. Ouais, mais en fait pour moi c'est pas facile. Et du coup, c'est aussi pour ça que je me suis dit, je vais apprendre à le faire, je vais me débrouiller par moi-même. Écouter des podcasts, apprendre par les personnes qui m'entourent, pour aussi comprendre à quel point c'est une compétence qui est hyper nécessaire, qui est une compétence, tu parles rare, c'est une compétence qui est pépite. Enfin, c'est nécessaire vraiment à une entreprise de savoir avoir de la clarté sur les process, avoir de la clarté sur l'organisation, sur qui fait quoi à tel moment, etc. Et maintenant, je comprends à quel point c'est nécessaire d'avoir une vision, parce que ça permet de se projeter et ça permet de faire des plans sur la comète, et donc de construire des process qui sont clairs et d'avoir de la clarté aussi en termes de santé mentale. Donc, je vous dis pas de faire un truc aussi complexe qu'on a pu faire, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a pu mettre en place, mais juste commencer à le faire, parce que vous comprendrez à quel point c'est nécessaire.
Et moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que le fait de ne pas voir le recrutement de tel ou tel poste comme la pilule magique, mais se plonger un peu déjà dans la réalité de ce que ce serait le travail de cette personne avant, ça fluidifie la communication derrière, parce que on se comprend un peu mieux en tant qu'être humain.
Et puis on sait, on connaît les critères qui sont importants pour nous. Je parlais de
pour choisir.
Ouais. C'est important pour la boîte, pour voilà choisir. Moi, je on en parlait dans mon premier épisode. Moi, j'ai fait des études de communication, etc. Ben, en fait, maintenant, j'ai travaillé par exemple, avec un graphiste designer il y a quelques mois. Ben, en fait, je savais que je pouvais lui faire confiance parce que je savais qu'il était professionnel et je connaissais à quel point c'était important pour moi d'avoir quelqu'un qui connaît son travail, qui sait à quel point c'est important, même si je savais que j'allais payer plus cher. En fait, je savais que c'était quelqu'un à qui je pouvais faire confiance parce qu'il connaissait son travail, parce que je connaissais aussi à quel point ça pouvait être compliqué. Je suis pas graphiste, j'ai fait des études de communication, j'ai appris à le faire, etc. Mais je suis pas graphiste, j'ai pas les compétences stratégiques, on va dire, pour faire un logo, choisir des couleurs, etc. Mais j'ai compris à quel point son travail il était de qualité. Quand j'ai vu le résultat, j'ai dit, ouais, je sais à quel point il y a passé du temps, parce que je sais à quel point ça peut être dur, même si c'est pour lui, c'est plus facile en soi.
Ouais. Ce que je te propose, Diane, c'est qu'on arrive tranquillement sur les questions rituelles de fin d'épisode. Et je suis très curieux parce que je me demande si tu vas dire des choses différentes de la première fois que tu es venue sur le podcast. Et peut-être que tu te souviens d'ailleurs des questions rituelles de fin. La première, c'est imaginons que tu es face à Diane, c'est son premier jour en tant que freelance. C'est quoi le conseil que tu te donnerais à ton toi du passé?
Je peux dire deux trucs.
Tu peux dire deux trucs. C'est... tu es libre dans ta conversation avec ton toi passé.
Déjà, je dirais augmente tes prix. Augmente-les à la valeur à laquelle tu es. C'est-à-dire, prends le temps de fixer à quel... c'est quoi tes dépenses, c'est quoi tes charges, etc. Et puis fixe un prix qui est en cohérence avec ça. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, je dirais, va voir un psy. Parce qu'en fait, je pense que j'étais un peu affolée par tout. Et puis, parce quand on se lance, on se dit, ouais, c'est super, c'est génial, j'avais plein de contacts et tout. Je pense que l'effervescence et l'euphorie du début m'a fait aussi oublier que j'avais un cerveau, une santé mentale qui était importante pour moi. Et je ne rigolerai pas en disant que aller voir... commencer une thérapie en octobre dernier, vraiment beaucoup, beaucoup impacté, même t'irais changer ma vie. Mais ouais. Et pas peur d'aller voir quelqu'un, pas peur d'aller voir un psy, quoi.
Tu dirais que c'est quoi la plus grosse difficulté que t'as rencontrée ces trois dernières années depuis que tu t'es lancée? Et comment t'as fait pour dépasser cette difficulté-là?
Je pense que j'ai pas réussi à être assez honnête avec moi-même. Pauline Sarda, elle parle beaucoup d'honnêteté radicale, et je suis assez d'accord avec cette notion de vraiment... pas avoir peur d'être honnête avec soi-même. Alors, honnête avec les autres, c'est en fonction des affinités que vous pouvez avoir, etc. Mais je crois que de savoir voir les choses en face des trous, de pas se mentir, de pas se dire bon, c'est bon, je vais pouvoir payer mon loyer, j'ai pas 800 euros sur mon compte en banque. Enfin, l'argent, il tombe pas du ciel, en fait. Donc, si t'as plus d'argent, t'as plus d'argent. Tu le vis comme t'en as envie, comme tu peux le vivre. Mais je crois que c'est vraiment de savoir être honnête, d'être honnête aussi avec les personnes avec qui j'ai travaillé, parce que des fois aussi j'ai été un peu en mode ouais, ça va, j'ai pas passé un super week-end, mais t'inquiète, ça va. Et en fait, le week-end, j'ai fait, je sais pas comment, crise d'angoisse et j'allais pas bien. Et comment j'ai dépassé, je crois que c'est en réussissant à me faire accompagner. Il y a aussi beaucoup, enfin, je parle de psy, de psychiatrie, de psychologue depuis tout à l'heure, etc., et de savoir aller voir quelqu'un quand les compétences, mais j'ai aussi beaucoup de personnes de mon entourage, que ce soit Marine Roman, qui j'ai fait mes études et qui me connaît très très bien, qui a réussi aussi à m'accompagner et à me soutenir dans les décisions que j'ai pu prendre quand j'ai évolué, etc. Même toi, même s'il y a des choses où des fois j'étais pas totalement d'accord, t'as quand même réussi à m'écouter et à savoir m'entendre quand j'allais pas bien, à me soutenir aussi j'allais avoir des décisions ou même j'allais avoir des émotions qui étaient un peu contradictoires, etc. Donc je pense que je me souviens que j'avais dit dans la première édition du podcast, pour la première interview, j'avais dit une des choses qui est le plus important quand on commence, c'est de s'entourer. En fait, j'ai toujours regardé cet entourage et j'ai toujours cet entourage qui est très fort pour moi et qui est en même temps en train de me dire, non, en fait,
enfin t'es con là, tu, enfin pourquoi tu dis ça en fait, t'es une super personne et Marine me l'a souvent dit, elle m'a dit non non t'es juste t'es con là, désolé, tu fais n'importe quoi. Donc ouais, il y a Nouna aussi donc qui est aussi une business manager mais maintenant qui habite au Québec et avec qui maintenant j'en s'appelle tous les mois etc et qui m'a aussi beaucoup soutenue dans plein de choses et je pense que c'est hyper important de bah quand on est indépendant, quand on est solopreneur, il y a pas que le nom hein qui est indépendant, mais on est seul souvent et je pense que c'est hyper important de se soutenir, que ce soit quand on est entre freelance mais aussi en fonction de nos affinités, en fonction de nos valeurs, de voir d'autres gens aussi, parce que bah quand on va pas bien, c'est aussi très important d'aller voir des gens, et même si c'est pour leur dire je vais pas bien, j'ai fait une crise d'angoisse hier et je me sens vraiment nulle, même si ça règle pas le problème, j'en suis consciente, ça fait du bien en fait de déposer ça quelque part et de d'avoir des personnes qui disent bah ok, moi je t'accepte comme tu es et c'est pas un problème et ça va aller et ça prend du temps mais t'inquiète, je peux te prendre dans les bras si t'as envie, si ça va aller et tout. Donc ouais, je pense que c'est hyper important de avoir des gens aussi qui sont un peu des lumières et qui te disent non, ce que t'es en train de faire là c'est vraiment une mauvaise idée, ou juste te dire bah t'inquiète, c'est sur la bonne voie, c'est juste ça prend du temps quoi.
Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que ça a été dur pour toi d'être vraiment honnête parfois avec l'état dans lequel tu es, et ça t'a aidé d'avoir un entourage qui, toi, t'aide déjà à être plus honnête avec toi-même, mais qui est aussi très honnête, parfois radicalement avec toi, pour te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, et qui te met face à toi-même, quoi.
Ouais.
C'est ça ? Ok. Je veux te poser une autre question rituelle qui n'était pas là, je crois, dans le podcast à l'époque, qui est celle de ton objectif du moment. Après quoi tu cours en ce moment, Diane, notamment depuis la fin de notre collaboration.
Après quoi je cours, beaucoup de choses, mais c'est pas le sujet en soi du podcast. Mon objectif du moment, c'est de faire un peu renaître mon entreprise, de me faire renaître aussi moi, juste tout simplement. Ça passe par beaucoup de choses. C'est passé par le fait que maintenant, sur Instagram, c'est comme mon compte perso. Donc, si vous avez envie de suivre mes aventures, etc., ce sera sur LinkedIn que ça se passera, ou directement via mon adresse mail. Ça passe aussi par le fait que, après 3 ans à faire beaucoup d'implémentations, à faire beaucoup pour les autres, bah, j'ai décidé de, en tout cas pour l'instant, arrêter de le faire et de faire plus une offre d'accompagnement à la structuration. Donc l'objectif, c'est vraiment de structurer l'entreprise par le chef d'entreprise, par le CEO, pour retrouver un nouveau souffle pour l'entreprise, mais aussi retrouver du temps sur des choses qui sont importantes pour le chef d'entreprise, etc. Et au-delà du fonctionnement, avec des sessions de travail, avec aussi un vrai lien humain que j'ai pu mettre en place avec toi et que j'ai appris aussi à faire, pour moi, c'est aussi mettre en pratique tout ce que j'ai pu apprendre pendant ces 3 ans. C'est un peu un cadeau à mes futurs clients, mais de se dire, en fait, j'ai appris tellement avec Thomas et je continue d'apprendre avec beaucoup de choses. Mais une des choses que j'ai le plus appris, c'est que quand moi, je mettais la main à la pâte, quand moi, je construisais les process, quand je faisais les plans de 90 jours, je m'occupais des outils, etc. En fait, c'est comme ça que j'ai appris à comprendre l'entreprise de Thomas. Et c'est aussi comme ça que j'ai appris à comprendre mon entreprise au passage. Donc, c'est autant un vrai accompagnement sur l'aspect mindset, posture, mais aussi sur du pratico-pratique et sur la structuration globale de l'entreprise. Donc voilà, c'est un accompagnement de 6 mois qui a 800 € par mois pendant 6 mois. Et si ça vous intéresse, si même notre discussion, ça vous a intéressé, etc., rendez-vous sur LinkedIn. Hein. Ça ne change pas.
Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu cours après une renaissance de ta boîte, notamment en changeant de posture, en passant de j'exécute à j'accompagne, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce que tu cherches vraiment derrière cet objectif ?
Il y a un truc qui s'est passé, donc je l'ai dit, hein, il y a un an, j'ai vécu un... Enfin, il y a des traumas qui sont venus de ce que j'ai pu vivre dans plein de sujets, et notamment dans ma vie personnelle et donc familiale. Et ça, je commence un peu en plus à en parler, mais quand j'étais plus petite et quand j'étais adolescente, surtout, j'ai vécu des violences psychologiques de la part de mon père. Et de ce que j'ai pu apprendre aussi avec ma thérapie, etc., c'est que
Ce qui m'a manqué quand j'étais petite, c'était de la compréhension de ce qui se passait. C'était d'avoir le contrôle sur les choses et surtout d'avoir de la compréhension sur ce qui se passait, d'avoir de la clarté sur les responsabilités de chacun, de savoir ce qui se passe autour de moi, parce que c'était beaucoup les adultes qui choisissaient, qui réfléchissaient pour moi, parce que c'était des adultes, etc. Et via cet accompagnement, même en fait le fait de renaître, bah c'est aussi un peu une revanche, alors totalement personnelle, hein, mais c'est aussi de me dire peut-être que avec cette offre, avec le fait de revivre, de renaître, je pourrais un peu plus avoir de clarté sur comment moi je suis, qu'est-ce qui je suis vraiment, et surtout bah vu comment j'ai pu survivre, comment j'ai pu affronter les tempêtes face à mes plusieurs années d'expérience, etc. Bah c'est aussi un vrai moyen pour moi de d'avoir du contrôle en fait sur les choses. J'ai tellement été malmenée sur beaucoup de sujets, j'ai subi du chantage affectif, etc. D'avoir de la clarté sur voilà en fait maintenant comment ça se passe et voilà pourquoi il faut pas que tu fasses ça comme ça, parce qu'en fait ça peut avoir vraiment des vraies répercussions sur les personnes avec qui tu travailles ou même sur ton entourage. Quand on est chef d'entreprise, on s'en rend, enfin, quand on est en pleine croissance, on se rend pas toujours compte des sujets qui se passent et de l'ampleur de notre entreprise, de l'ampleur de ce qui se passe, l'ampleur de la structuration dont on a besoin. Et de juste prendre du recul sur, ah ouais, en fait, si je fais ça, ça va peut-être avoir un impact néfaste sur les personnes avec qui je travaille. Parce que ça peut être tout simple, mais ça peut être juste, j'ai pas encore assez de clarté sur les responsabilités de cette personne. Mais si t'as pas assez de responsabilités, la personne, elle va être perdue, elle va pas faire bien son travail et elle va peut-être mal le vivre. Et je pense que c'est aussi un peu pour ça que je travaille là-dessus, que j'ai aussi envie de lancer une offre sur de l'accompagnement et moins de l'implémentation. Voilà.
Ok, très bien. C'est à ton tour de poser une question maintenant, Diane. Tu sais que j'aime terminer sur oui. sur ça pour qu'on quitte notre petite conversation et qu'on s'ouvre sur une plus grande conversation avec toutes les personnes qui nous ont écoutés et qui nous écoutent. Et du coup, est-ce que tu as une question à leur poser, Diane, pour que toutes les personnes qui sont là continuent de réfléchir à leur entreprise et à leur vie de freelance, leur vie d'indépendant?
Alors, j'avais pas préparé ma question, mais du coup, j'ai réfléchi. je pense qu'une des questions qui peuvent se poser, c'est quoi les socles de mon entreprise? C'est quoi les, ça peut être les socles de valeur, mais c'est quoi les, en fait, c'est quoi qui fait que je suis solide? Que personne peut déroger à la règle et que moi je m'endors, comme je dis, que je peux m'endormir le soir et que je fais pas d'insomnie, que tout va bien, que je suis en accord avec moi-même et que je peux avancer sereinement. Quoi.
Donc sur quoi repose la solidité de ma boîte.
Ouais.
Super. Merci beaucoup Diane pour toute cette conversation et tout ce qu'on s'est partagé. Où est-ce que je renvoie les gens qui voudraient répondre à ta question et continuer de discuter avec toi, suivre tes aventures?
Bah LinkedIn, Diane Ataya, Diane, A-T-A-Y-A, ou sinon, si vous n'avez pas envie de me voir sur LinkedIn et que vous préférez le mail, etc., vous pouvez juste m'envoyer un mail. Mon adresse mail, c'est ataya, A-T-A-Y-A, diane@gmail.com. Vous pouvez juste m'envoyer un mail si c'est pour travailler ensemble, pourquoi pas, mais aussi juste pour me partager votre ressenti, ce que vous avez retenu de cet épisode, est-ce que vous avez des commentaires à me faire, est-ce que vous avez des questions à me poser, c'est la meilleure façon.
Super. Merci Diane.
De rien.
J'espère que cet épisode t'a plu, t'a inspiré, t'a apporté des clés, bref, t'a donné des belles choses pour avancer dans ta vie et ton aventure entrepreneuriale, et que t'as envie de continuer l'aventure avec nous en écoutant un prochain épisode. Je le répète, on sort un épisode toutes les semaines et il y a déjà des heures et des heures de contenu que tu peux consommer sur toutes les thématiques. Donc n'hésite pas à aller explorer les autres épisodes de ce podcast. Et si ça t'a plu, la meilleure manière de nous soutenir, et ce qui nous ferait le plus plaisir au monde, c'est que tu mettes une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et que tu laisses un commentaire pour partager ton expérience. C'est ce qui nous aide le plus à répandre le message à d'autres. Sur ce, je te dis à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye-bye.